Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le démarrage de ces deux journées d'accélération PEPA-ICAR. Je suis Géraldine Farage, je suis la directrice du pôle Pixel. Je vais vous introduire en quelques mots ce lieu et cette structure que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais on est ravis d'accueillir un réseau très très large aujourd'hui du secteur de la recherche et de l'innovation. Donc vous êtes ici au Pôle Pixel, qui est un lieu de 32 000 m² qui rassemble la filière de l'image en mouvement sur le territoire de la métropole de Lyon et plus largement un écosystème à l'échelle de la région, région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on parle de la filière de l'image en mouvement, on entend quoi? À la fois les acteurs du cinéma, du jeu vidéo, du documentaire, du cinéma d'animation, de la création en ligne, de la web création, et également des arts hybrides et numériques dans toutes leurs formes. Le lieu rassemble à la fois des professionnels créatifs, des producteurs, des fournisseurs, des prestataires de services, et l'association Pôle Pixel est là pour accompagner l'ensemble de ces acteurs à l'endroit de leurs compétences et de leur formation, de leur mise en réseau et de les aider à s'entreconnecter et à monter des nouveaux projets ensemble, mais également, bien entendu, à l'endroit de l'accueil de leurs projets, que ce soit pour des temporalités de création artistique ou de tournage avec les studios, ou plus, de manière plus pérenne avec des bureaux, des coworking, etc. L'association se déploie à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes pôle ressources régionales de la création en environnement numérique avec le soutien du ministère de la Culture et plus particulièrement de la DGCA et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est dans ce cadre que nous avons le plaisir d'avoir depuis maintenant un an Inès Selman au sein de nos effectifs qui a développé son projet de thèse et de doctorat avec une co-tutelle de Paris 8 et du CNAM qui sont également présents et qui parleront après nous. L'équipe du Pôle Pixel est là aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur nos programmes d'accompagnement et sur les différents services qu'on peut vous offrir dans vos pratiques et vos recherches, et je vais passer la parole à Christophe Jumet pour qu'il puisse vous présenter Erasmus. Merci et très bonne journée d'accélération.
Bonjour, bonjour et bienvenue à ERASM, qui est le laboratoire d'innovation de la métropole de Lyon. Je sais que certaines et certains d'entre vous connaissent le lieu, d'autres pas du tout. C'est un espace dont vous allez découvrir ce matin une petite partie, cette partie-là, qui est un outil de travail au service d'une équipe d'une dizaine de personnes qui accompagne les directions métiers de la collectivité sur l'ensemble du champ de compétences d'une collectivité comme la métropole de Lyon, donc la santé, la culture, l'urbanisme, etc. Et nous, on est là pour les accompagner à travailler autrement. Donc on parle beaucoup de transformation, c'est-à-dire qu'on parle, si vous regardez le petit panneau qui est de ce côté, c'est un des outils qui nous permet d'amener nos collègues directeurs de projet à travailler de manière différente et notamment à tester de manière frugale des solutions avant de les déployer sur le territoire. Et cette question de la frugalité nous habite depuis un certain nombre d'années en essayant de se dire, pendant longtemps on a dit les technologies, comment ça peut être une opportunité pour travailler autrement, pour rendre des services au sein d'une collectivité. Aujourd'hui on voit bien que cette question, Inès qui l'interroge autour des arts numériques, mais nous on l'interroge aussi tous les jours en se disant quel compromis on doit faire autour de ces choses-là. Et le design, et notamment le design thinking, nous apporte des solutions en nous proposant, nous permettant de tester rapidement, souvent avec du carton. Je ne sais pas si vous avez vu la petite flèche de l'Urban Lab. Voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait ici. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser les choses en vrai tout de suite, on les fait à l'échelle 1 de manière à les vivre et puis à vérifier celles qui ont de la valeur. Et puis à pousser celles qui ont de la valeur. Donc on a aussi un incubateur qui accompagne des projets, une dizaine de projets chaque année, qui sont ensuite déployés sur les territoires. Tout ça pour dire que ce lieu, il est vraiment tourné vers à la fois la manière dont on va affronter le changement, en fait, dans nos vies, autour des technologies, autour des organisations. Il est là pour associer des acteurs très différents Et c'est pour ça qu'on travaille évidemment de manière très très proche avec les industries créatives et beaucoup de celles qui sont ici sur le code Pixel. Et puis les acteurs de la recherche, parce qu'on se base aussi souvent sur ces éléments sur lesquels on peut vraiment construire une pensée. Et puis cet aspect très pratique que l'on va tester cet après-midi, pendant 2 jours, et que vous aurez l'occasion de découvrir demain en fin de journée à l'occasion d'un petit workshop que l'on mène avec 3 équipes pendant les 2 jours et dont la restitution aura lieu demain à 17h. Voilà. On est donc pour toute l'équipe, David, Patrick, Kaila, Juliette, je ne sais pas où elle est, ici aussi pour répondre à vos questions si vous en avez, et puis pour prendre date pour des futurs projets. Voilà. Aussi comme ça que les choses se passent. Merci beaucoup.
David Curjoli, je co-dirige le PPRK avec Solvexer. Est-ce qu'on voulait, c'était prendre un petit temps aussi pour vous raconter un petit peu ce qu'on cherche à construire au sein d'ICAR et du réseau. Pour bien évidemment, enfin, ce type de journée d'accélération, c'est un des éléments que l'on met en place dans le cadre du programme.
Merci.
Et je voulais vous raconter un tout petit peu tout ça. Donc, pour avancer un tout petit peu. Donc, le ICAR, ça vient d'un programme national de recherche. L'ancien nom de tout ça, c'était PEPR. Donc, c'est un objet d'animation ou de financement de la recherche qui est assez récent dans l'écosystème. Ça vient d'une stratégie nationale d'accélération autour des industries culturelles et créatives. Et ce que l'on vous présente ici dans le cadre du PEPR, c'est plutôt le volet recherche de cette stratégie-là. Donc, ça, je vais détailler un tout petit peu tout ça. L'objectif ici, c'était de répondre à une demande de l'État qui a identifié des secteurs d'activité pour lesquels il était nécessaire de mettre un petit peu l'accent dans le cadre d'une stratégie France 2030 de financement. Et parmi cette liste de champs disciplinaires, de champs industriels, se trouvent les industries culturelles et créatives. Découle de cette identification-là plusieurs objets de financement. Donc le PEPR, c'est le financement de la partie recherche de la stratégie nationale d'accélération des industries culturelles et créatives. Et à côté de ce volet recherche, il y a des appels de France 2030 pour la transformation numérique liée à l'IA, pour des pôles territoriaux, pour des actions de prématuration, maturation. Donc il y a tout un tas d'objets qui gravitent autour de cette stratégie nationale d'accélération. Avec, pour le PEPR, un programme de 6 ans qui est porté par le CNRS, donc ça c'est vraiment le volet recherche de cette stratégie-là, avec, comme je le disais, comme directeur et comme pilote, Solvexer, qui est directeur de recherche en sciences humaines et sociales, moi qui suis directeur de recherche en sciences informatiques, et le cœur de cible de ce réseau PEPR-ICAR de points de recherche, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche, élargi aux écoles d'art du ministère de la Culture et aux industries culturelles et créatives. Là, le jargon que moi j'emploie pour les industries culturelles et créatives, pour vraiment l'entendre dans le sens très large, ça peut aller pour le secteur de la musique par exemple, du musicien dans son studio jusqu'à la grosse maison du disque. Ce sont pour nous des industries culturelles et créatives et on a à répondre à des besoins, à des problématiques liées à leur exercice, à l'exercice de leur métier, et pour lesquelles l'interaction avec des chercheurs ou des comités de recherche en sciences humaines et sociales et en informatique serait pertinente. Donc on a 2 partenaires au sein du PEPR-ICAR. On a un Equipex Continuum. Donc là, c'est encore un acronyme, c'est un réseau national de plateformes pour l'immersion et l'interaction. Donc globalement, dans les laboratoires de recherche en France, il y a beaucoup de structures, beaucoup d'infrastructures physiques avec des salles, des quais, des espaces immersifs, etc., etc. pour la recherche, qui sont mis en réseau au sein de l'Equipex Continuum. Donc là, le message de ce partenariat, c'est de dire si on a besoin de faire une expérimentation recherche au sein d'une plateforme immersive de laboratoire, et bien on peut le faire via Continuum. On a notre partenaire, Pierre-Étoile Poumadou, donc qui est une structure du CNRS pour aider les sciences humaines et sociales à la gestion des données métadonnées. Et là, les questions et les interactions que l'on a avec Poumadou, c'est vraiment sur ces questions de données métadonnées pour les industries culturelles et créatives, comment est-ce qu'on les met, enfin, quels sont les verrous, quels sont les points bloquants et quels sont les leviers potentiels sur une interaction un peu plus fine dans cette gestion-là. Sur la fiche signaltique toujours, donc c'est un programme de recherche qui est assez fortement doté, donc c'est un programme qui est doté de 25 millions d'euros sur 6 ans, qui a démarré officiellement sur son lancement au printemps 2024 et qui dure 6 ans. Donc on a le temps, c'est vraiment ce qui est original dans cet appel-là, c'est que c'est vraiment un temps long dans lequel on a l'occasion et le temps de financer des actions de recherche et des actions de recherche avec et pour les ICC, c'était ça notre stratégie de départ. Donc cette problématique de faire rencontrer les industries culturelles et créatives et les chercheurs, c'est une problématique qui a beaucoup de freins en soi et qu'il s'agit de lever et pour lesquels on a 6 ans pour y travailler. C'est sur d'abord des points un petit peu bloquants sur ces interactions-là ou ces points de difficulté sur les différences de temporalité. Le chercheur, lui, nécessite du temps long. Les industriels et les créatifs ont parfois des besoins bien plus courts dans le temps à gérer. Il y a des mises en relation difficiles, il y a très peu d'interactions, ou en tout cas des interactions très parcellaires entre des activités de recherche et des chercheurs et ces industries culturelles et créatives. Et enfin, c'est vraiment ce manque de dialogue, la complexité des objets, il y a très peu de structuration sur ce thème-là, d'un point de vue recherche et encore moins d'un point de vue professionnel. Donc c'est tout ça qu'on va chercher à lever dans le cadre du PMPR et CARP. Donc nos missions, c'est de constituer un espace de rencontre et de dialogue entre les communautés de recherche et les professionnels. Et ces journées d'accélération sont typiquement un des exemples d'actions que l'on met en place au sein du PEPR pour construire une science avec et pour les industries culturelles et créatives. En tout cas, c'était donné comme objectif. Avec deux outils principaux, un site web. Le site web du PEPR, c'est sur cet élément que vous allez retrouver l'ensemble des journées d'accélération de l'activité, l'ensemble des appels à financement que l'on propose dans le cadre du PEPR. Une plateforme de rencontre, Ariane, donc c'est un site web dans lequel vous pouvez, que vous soyez professionnel ou chercheur, vous pouvez créer un profil dessus pour vous mettre en relation localement sur votre site ou dans votre champ disciplinaire, pour trouver des partenaires, monter des programmes et participer aussi, s'inscrire sur des listes de diffusion qui seront ensuite sur lesquelles on va ensuite communiquer sur nos différentes journées, différents appels. Bien évidemment, des rencontres et les journées d'accélération. Là, c'est la 5, je ne sais plus exactement où on en est exactement dans les chiffres, mais peut-être la 52e journée d'accélération qu'on a construite depuis le début. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup à Lyon, et c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ici sur Lyon dans le cadre de ces journées d'accélération. Et on a aussi des lettres trimestrielles d'ICAR. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans ICAR, qu'est-ce que c'est que cette idée-là, ben, regardez les lettres, on en a 3 qui ont été publiées. Ça vous résume un tout petit peu nos activités, nos lauréats et notre démarche en suite. Pardon, je glisse à l'oreille. En termes de diffusion de communication, vous avez bien évidemment une chaîne YouTube dans laquelle on va diffuser un ensemble de capsules vidéo issues soit de l'animation du programme, soit des journées spécifiques d'animation. Ok, donc je vais faire très vite sur la structuration du programme. On a un programme de recherche qui se structure autour de projets thématiques ciblés. Donc on a décidé de démarrer sur des problématiques transversales dès le début du programme, et on a surtout un ICAR Lab. L'ICAR Lab, c'est la structure un petit peu de gouvernance dans laquelle se déroulent ces journées d'accélération, dans lesquelles nous faisons des appels à petits projets, des appels à thèse et des appels à gros consortiums. Et c'est comme ça qu'on structure un petit peu le programme. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous ces détails-là, c'est peut-être pas hyper important ici, maintenant. N'empêche, les éléments que vous allez pouvoir retrouver sur le site web du PEPR ICAR, le point de vigilance est vraiment sur ces appels à financement. On a des petits programmes, on peut financer des petits projets à hauteur de 20 000 euros pour peu qu'il y ait une interaction, une question de recherche en interaction avec les industries culturelles et créatives, et c'est quelque chose que l'on d'assez régulier dans notre démarche d'animation et que pour lequel vous allez retrouver toutes les informations sur le site web. Je vais peut-être passer rapidement sur ces choses-là. Oui, peut-être pour vous décrire un petit peu dans le cadre de l'animation que l'on fait, les secteurs des ICC que l'on décide de cibler. Donc là, les secteurs sont mentionnés sur ce slide-là, donc art de vivre, audiovisuel, design, architecture, édition, jeux vidéo, métiers d'art et de mode, musée patrimoine, spectacle vivant et art de vivre. Donc c'est vraiment sur le prisme de cette structuration-là que l'on déroule ces journées d'accélération. En parallèle de ces actions par secteur, on a aussi des actions transversales, que notamment on a des référents y compris transition, et c'est dans ce contexte-là que se déroule cette journée-là, avec notamment Lucie Marier, qui est responsable, qui est référente pour les actions de transition du PEPR. Donc en termes d'action, vous avez, j'ai déjà un tout petit peu anticipé ces éléments-là. Donc on a les journées d'accélération, des journées d'animation et de rencontres, donc c'est l'occasion aujourd'hui de cela. On a des appels à petits projets, on en a deux par an, on a des appels à thèse et accompagnement doctoraux. Donc les appels à thèse, malheureusement, on risque de ne plus poursuivre le financement, on a déjà attribué toutes nos thèses. Mais par contre, pour les appels à petits projets et accompagnement doctoral, c'est des choses qui sont toujours actives. Et enfin, on a un appel à programme géré par l'ANR sur des gros consortiums de financement pour des projets de recherche sur 3-4 ans. La condition pour répondre à ces questions-là, c'est évidemment de porter une problématique de recherche avec et pour les industries culturelles et créatives. Il ne s'agit pas de travailler forcément sur une industrie, mais par contre d'apporter vraiment, de répondre à un questionnement actuel de ces partenaires-là. Voilà, merci pour tout ça. Si vous avez des questions sur, sur ce programme de recherche et les interactions potentielles que vous pouvez avoir, je suis ici encore aujourd'hui. Hyacinthe Bélio est chef de programme pour le PRK. Merci à vous. Interagir avec vous.
Pour son accueil ici et aussi une immense admiration à Inès Hellmann, dont j'ai la chance de co-diriger la thèse avec Jean-François qui va vous parler juste après moi. Donc, moi je suis Lucie Marigné, je suis professeure du Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire d'ingénierie de la culture et de la création. Et dans le cadre du programme ICA, je suis référente transversale sur les transitions. Ce qui en soi est gageur, c'est-à-dire que considérer qu'on est dans un programme d'accélération d'industrie et qu'il s'agit d'avoir non seulement une vigilance, mais de produire de la recherche sur la manière dont ce secteur pourrait porter une responsabilité écologique, d'une part sur son impact, mais aussi sur ses contenus et aussi sur les imaginaires qui peuvent se diffuser dans la société autour des enjeux de sobriété et de redirection écologique, c'est en soi une gageur. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, sur cette contradiction, sur cette injonction contradictoire, dans le cadre d'un programme sur les ICC qui a accepté de faire place à ces enjeux-là et à ces questions-là, et notamment de réfléchir avec les acteurs professionnels et les chercheurs sur la manière dont on peut, dans une phase qui s'ouvre à nous, qui est une phase de plafond de verre hein, sur la transition écologique, après un moment de grand enthousiasme post-Covid, on marque le pas parce que c'est moins une priorité des pouvoirs publics, parce que globalement l'écologie ça commence à bien faire, parce que, etc. Et en même temps, on est en train de découvrir, en tout cas nous, c'est à ça que ça sert, la recherche parfois, c'est de travailler sur des hypothèses qui ne sont pas encore visibles, qui sont sous le radar. Donc, on fait l'hypothèse qu'il y a un certain nombre de choses qui sont des obligations, des urgences ou des opportunités qui pourraient faire qu'on passe à une seconde phase des transitions écologiques des secteurs culturels et créatifs. Il y a des obligations qui sont l'adaptation directe aux aléas et aux risques climatiques qui deviennent aujourd'hui dans une réalité des lieux et des acteurs culturels. Mais il y a aussi des secteurs qui peuvent être soit une très grosse part du problème, comme le numérique, soit peut-être une part de la solution. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est particulièrement heureux de pouvoir diriger des travaux de recherche qui consistent à dire bah, si en fait, et si on faisait le numérique low-tech, est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que ça produit en termes de contenu, mais aussi de réception, y compris du grand public. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est aussi pour ça que c'est vraiment formidable de diriger cette thèse avec Inès. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir dans le cadre, donc avec des journées d'accélération qui sont sectorielles et thématiques sur lesquelles il y a des dimensions écologiques. Et je dois dire que la plupart des collègues dans les différentes disciplines et les différents programmes ont souhaité développer des journées d'études intégrant ces questions écologiques. Le fait de soutenir des thèses et des accompagnements de thèses et des petits projets dans lesquels la dimension écologique soit fondamentale, et puis d'une façon générale de réfléchir à qu'est-ce que peut être une recherche responsable en lien avec le monde professionnel dans la logique de France 2030. Donc c'est tout ce sur quoi on travaille, et notamment avec l'accompagnement de la thèse d'Inès et de ces journées d'accélération. Donc est-ce que la création numérique peut être une part non seulement du projet, mais aussi de la solution. c'est plus le domaine de mon collègue Jean-François auquel je vais passer la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je suis Jean-François Gégaud, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8. Je m'intéresse depuis pas mal d'années à la question de l'écosophie, en fait. Donc, c'est un concept en écologie qui s'intéresse non seulement à l'écologie environnementale, mais aussi à l'écologie sociale et mentale. Donc, l'UNES a pris parti aujourd'hui d'organiser ces deux journées sous cet angle-là. Donc, juste pour vous rappeler en fait, que c'est la partie haute d'un iceberg, d'un grand écosystème. L'écosophie, en fait, c'est un concept qui est apparu il y a une quarantaine d'années. Et on a plusieurs groupes de travail qui existent sur le réseau national, notamment le groupe Art Écologie Transition qui est basé à Paris 8, à l'Université Paris 8, qui s'intéresse donc à inviter des artistes et discuter ce sujet sous l'angle des arts depuis 2016. Actuellement, avec Inès, nous participons à un projet de recherche nationale, un projet ANR, qui s'appelle Imagine Art, donc art numérique et décroissance, avec aussi l'enjeu ici d'inviter des artistes à discuter des enjeux du numérique à venir pour la création sous un angle post-croissant, décroissant. Et donc ce projet qui va durer 3 ans impliquera 6 résidences d'artistes, 3 résidences dans les 3 universités partenaires, donc l'université de Lille, de Paris 8 et de Aix-Marseille, et 3 lieux, des tiers-lieux paysans en France. Pour terminer, je voulais quand même remercier Inès qui a mis plusieurs mois à organiser ces deux journées. Remercier aussi Paul Pixel pour l'accueil et BEP Erika. Pour vous indiquer aussi qu'on travaille en ce moment sur une cartographie, donc à la fois des acteurs du numérique, du low-tech et des enjeux d'écosophie, donc aussi bien au niveau du collectif de l'Université Paris 8, mais aussi avec le réseau ACNUM, donc qui est le réseau national des arts hybrides et numériques. Donc, c'est une association qui est basée à Marseille et qui essaye de fédérer au maximum les acteurs de l'industrie culturelle, mais aussi les artistes, les lieux de diffusion et aussi les universitaires. Il y a déjà une cartographie qui existe de tous les membres ACNUM, donc c'est en accès libre sur le site ACNUM. Et donc l'idée, en voyant aussi sur le site d'ICAR, il y a une cartographie des secteurs ICC et des académiques. Dans le cadre de la thèse d'Inès, il y a tout un travail de recensement qui va se faire pour pouvoir mieux relier tous ces écosystèmes. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à partager en fait, vos ressources locales et éventuellement des initiatives que vous connaissez qu'on pourrait du coup rassembler et donner accès au plus grand nombre. Et donc je passe la parole à Inès.
Bonjour à tous. Alors je vous préviens, je déteste parler en public, donc si je suis un peu stressée, il ne faut pas en vouloir. Déjà, merci infiniment d'être venus aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, et donc pour moi, donc, c'est mon sujet de thèse, donc c'est compliqué. Moi, j'ai étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais une fascination assez énorme pour les technologies, pour ce qu'elles font à notre manière de percevoir le monde, à notre manière de penser, à notre manière de faire société, et surtout à notre manière de créer. Cependant, tout aussi fascinée, j'en reste pas moins inquiète. Effectivement, le système technique... je ne sais pas si on m'entend. Effectivement, le système technique qu'on a bâti depuis l'apparition de l'ordinateur a de graves incidences sur notre environnement physique, notre psyché, notre manière d'interagir entre êtres humains et êtres humaines, ou encore nos systèmes politiques. J'en tiens pour exemple le technofascisme grandissant du pouvoir. En d'autres termes, l'industrie des technologies, en tout cas telle qu'elle est pensée aujourd'hui, et les usages qui en découlent, ont un impact sur ce qu'appelle Félix Guattari les 3 écologies. En 89, ce philosophe et psychanalyste français a publié un livre qui s'appelle les 3 écologies, et en fait il met en évidence que la crise écologique dite environnementale, pour faire simple notre rapport à la nature, elle ne peut pas être prise en compte sans prendre en compte la crise écologique sociale, donc tout ce qui a trait à nos systèmes de pouvoir et à nos relations interpersonnelles, la manière dont on interagit entre êtres humains et êtres humaines, et la crise écologique mentale, donc tout ce qui a trait à notre subjectivité et à notre psyché. D'après lui, du coup, il existe une crise de ces 3 écologies, et c'est seulement en les pensant de manière concomitante qu'on pourra résoudre justement la crise écologique au sens plus large. Donc il propose d'utiliser un outil dont j'ai un peu parlé, un outil théorico-pratique qu'il nomme l'écosophie. Ce terme n'est pas apparu pour la première fois sous la plume de Guattari, mais sous celle d'Arnès, un philosophe norvégien, et ça signifie étymologiquement « habiter sagement la terre ». Pour habiter sagement cette terre, on ne peut pas simplement se focaliser sur le fait de prendre soin de notre environnement physique, mais il faut aussi qu'on prenne soin de notre société et de notre psyché. Malheureusement, concernant le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'industrie des technologies, elle aggrave la crise des trois écologies et elle ne nous encourage pas à prendre soin de ces trois espaces. Donc moi, je me demande comment faire. Comment reprendre le pouvoir sur cette industrie? Comment imaginer une nouvelle façon de produire ces technologies qui sont devenues nos partenaires de vie? Comment proposer de nouveaux usages des objets qu'on utilise au quotidien, comme nos téléphones ou notre ordinateur? En somme, comment développer des usages technologiques et écosophiques? Heureusement pour moi, malgré un tempérament plutôt pessimiste en général, travailler au sein de l'écosystème des arts hybrides et numériques depuis 5 ans, ça m'a permis de déceler plusieurs solutions à ce problème. En effet, les artistes qui utilisent et pensent le numérique comme outil principal de création et toutes les personnes qui les accompagnent ont depuis de nombreuses années déjà développé tout un tas d'usages, de regards critiques ou de façons de produire avec les technologies qui me semblent être une mine d'or pour nous réapproprier notre système technique et l'orienter vers un système qu'on pourrait qualifier d'écosophique. Mais l'écosystème des arts numériques n'est pas le seul à avoir expérimenté. Un autre secteur l'a fait aussi, c'est celui des low-tech. Pour moi, ces deux communautés, elles proposent déjà des modes de production et des usages technologiques moins impactants pour les trois écologies. D'après moi, elles partagent donc une esthétique méthodologique commune. L'open source, le bidouillage, l'échange de savoir-faire, le détournement des objets, l'économie de moyens, même si parfois imposée, la frugalité, la convivialité, le regard technocritique ou encore la participation et même l'implication des publics sont autant de traits communs que j'ai pu identifier entre art numérique et low-tech. Donc moi j'ai le sentiment qu'en inspirant à la fois des solutions développées au sein de l'écosystème des arts numériques et de celui des low-tech, on pourrait justement proposer des usages technologiques plus robustes, éthiques et conviviaux dans le champ de la création. Inversement, cette alliance, je pense aussi qu'elle pourrait permettre au secteur des low-tech d'envisager de nouvelles manières de concevoir et de produire les technologies. Je me dis que grâce à un transfert de compétences depuis l'écosystème des arts numériques jusqu'au low-tech, il serait possible d'encourager, encore une fois, l'apparition d'usages numériques potentiellement écosophiques grâce à une sorte d'innovation, voire rétro-innovation créative. Et c'est donc de tout ça dont nous allons discuter pendant ces deux prochains jours. Donc la première partie du programme, elle se focalisera sur les raisons de la recherche, à savoir l'impact de l'industrie des technologies sur les trois écologies. On commencera tout à l'heure avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la colonialité du numérique et la manière dont les artistes s'emparent du sujet. Puis on fera un focus sur l'impact carbone de la filière XR pour finir sur les relations complexes entre numérique, écologie mentale et art, notamment dans un contexte d'accélération des usages de l'IA. Mais promis, cette partie qui est plutôt déprimante ne tiendra pas plus d'un quart du programme. Parce qu'en fait, mon objectif principal avec ces deux journées, c'est de vous montrer qu'il existe déjà énormément de solutions et de mettre un peu de joie et d'espoir dans nos cœurs malgré un sujet assez lourd. C'est ce que vous verrez donc notamment durant les 5 ateliers de la journée. C'était vraiment important pour moi qu'on puisse avoir l'occasion non pas seulement de parler d'éventuelles solutions, mais bien de les tester, de les éprouver collectivement et d'en débattre. J'espère d'ailleurs que vous pourrez rester jusqu'à 18h, car il y a une restitution des ateliers. L'idée, c'est que chaque groupe prenne 5 minutes pour présenter ce qui a été fait et qu'après, on puisse échanger ensemble avant le spectacle de Tom, Le Monde Paysan, Mon Père et Moi, qui aura lieu à 20h et qui, encore une fois, est une belle démonstration qu'il est possible de faire de l'art numérique autrement. Demain, on continuera à découvrir les alternatives, notamment dans le champ de l'imaginaire. Il me semble absolument essentiel de remettre au cœur de nos pensées un peu de magie, de joie et de merveilleux lorsqu'on réfléchit à notre système technique, et c'est avec ce sujet qu'on commencera la journée. Puis Artifarty viendra nous proposer des solutions pour permettre au secteur culturel de sortir de la dominance des GAFAM et donc du coup du technofascisme. Ensuite, on se demandera si en effet, art numérique et low-tech sont des pistes de solutions à la mise en place d'usages technologiques et écologiques. Et toujours dans cette volonté de passer par la pratique et pas seulement par la parole, il y aura la présentation de deux dispositifs permettant de produire dans le champ de la création de manière plus responsable. Donc on aura des vélos qui vont vous être présentés, les vélos de la poursuite et métal brûlant, qui permettent de faire des tournées de spectacles ou bien de tourner des films de manière douce et décarbonée. Et on aura un autre dispositif, la barre d'espace du Gram, qui est un système son spatialisé embarqué et frugal, on vous expliquera mieux demain, mais vous pourrez écouter au cube. Par ailleurs, malheureusement, le Chiffre Project, qui devait présenter leur rapport sur l'impact carbone de l'IA, ne pourra finalement pas être présent parmi nous. Et enfin, après la mise en lumière et la pratique de solutions existantes, un dernier axe se déroulera durant ces deux jours, mais que vous ne verrez qu'en clôture de l'événement, c'est celui de l'expérimentation. Actuellement, sont présents et présentes dans la salle 18 personnes qui vont participer donc aujourd'hui et demain à un sprint créatif. C'est comme un hackathon ou une jam créative, c'est-à-dire que pendant deux jours, elles vont tenter de relever des défis que je leur ai préparés, avec pour objectif de proposer des prototypes qui donc, vous seront présentés demain de 17h à 18h dans la salle d'à côté. Ces défis sont des déclinaisons à la grande question de ces journées d'accélération. Comment développer les usages technologiques écosophiques en s'inspirant des arts numériques et des low-tech? L'objectif de ce sprint, c'est d'aller encore plus loin et d'avoir une sorte de pôle de recherche et développement qui pourrait ajouter à toutes les alternatives et les solutions qu'on va découvrir durant les deux jours, encore d'autres créations. Donc je dois vous avouer que je suis extrêmement heureuse d'avoir eu la chance de programmer et d'organiser cette journée. Et j'aimerais donc remercier infiniment l'équipe d'ICAR pour leur confiance ainsi que ma co-direction de thèse. Merci Hyacinthe, Marion, Taïna, Voto, David, Solveig, Lucie et Jeff. Merci à l'équipe d'Erasme qui a accepté de nous accueillir et surtout d'organiser, d'animer et de m'accompagner dans la conception du sprint. Merci Christophe, Juliette, Thomas et David. Merci à l'équipe du Pôle Pixel qui est absolument la meilleure équipe qu'on peut espérer et qui est une aide exceptionnelle. Merci Vic, merci Kaki, Anna, Perrine, Pierre, Maxence, Enora, Alex, Thomas, Aline, Louise, Bérangère, Géraldine, Caroline, Jade et Stéphane. Bon, toi, t'as dit, c'est un peu bizarre aussi de faire tous ces remerciements, on dirait que je suis déjà ma soutenance de thèse. Par ailleurs, donc, petites informations pratiques, si vous avez des questions durant l'événement, n'hésitez pas à vous adresser à l'équipe du pôle, vous pourrez nous reconnaître avec nos badges. J'aimerais aussi remercier grandement les intervenants et intervenantes sans qui l'événement n'aurait jamais eu lieu. Je suis vraiment honorée que vous ayez accepté l'invitation, merci beaucoup. Un énorme merci aux participants et participantes du sprint d'avoir accepté ce projet un peu fou et surtout que vous êtes rendus disponibles. J'espère que l'expérience sera enrichissante pour vous. Et enfin, encore une fois, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Et merci aux étudiants.
Pour la restitution.
Pour la restitution, désolée. Et avant de démarrer la première table ronde, donc quelques petites informations pratiques. Donc vous l'aurez vu, le Pôle Pixel, c'est un labyrinthe. Donc pour rappel, ici nous sommes à Erasme. C'est ici qu'aura lieu donc, les tables rondes, les keynotes, la restitution des ateliers ce soir et la restitution du sprint demain. Le studio Lumière, qui est par là-bas, c'est l'espace où vous pourrez manger, travailler si besoin et puis surtout échanger entre vous. L'équipe a tout fait pour le rendre convivial, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous en saisir et à l'investir pendant ces deux jours. Faites comme chez vous, c'est votre espace. Au Cube, qui est donc un gros bâtiment noir anthracite là-bas, se tiendra 4 ateliers sur 5 et celui de Chloé Desmoineaux aura lieu de l'autre côté de la rue. Mais ne vous inquiétez pas, l'équipe du pôle, on est là, il y a des points un peu partout pour vous indiquer. Et puis normalement, vous avez reçu un mail de confirmation par Hyacinthe et j'en ai envoyé un hier avec un document ressource avec le plan, donc ça devrait vous aider. Petite information, pour les toilettes, il vaut mieux éviter ceux d'Erasme, où nous sommes, donc vous pouvez aller aux toilettes du studio Lumière ou du Cube, il y en a plusieurs. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Les participants et participantes du sprint, vous allez pouvoir suivre Christophe et Juliette dans la pièce d'à côté avant le début de la conférence. Moi, je vous souhaite un excellent événement. J'espère qu'après votre passage ici, vous sortirez avec un peu d'espoir, parce que je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Bel événement à tous.